Ce balado est une présentation du TLFQ, Trésor de la langue française au Québec, groupe de recherche de l'Université Laval. Bonne écoute! Bienvenue dans ce second épisode de la balado présenté par le Trésor de la langue française au Québec. Raymond Poirier, toujours avec vous et toujours avec vous pour explorer mais justement la langue, comment on la construit et j'aurais envie de dire pour ce second épisode, comment on la documente, comment on en fait l'histoire d'une certaine façon. Pourquoi je dis ça? Mais parce qu'on va parler en long et en large de ce dictionnaire historique du français québécois, un projet phare du Trésor de la langue française au Québec et un projet majeur pour justement la documentation de la langue. Et pour en parler, bien, je suis en compagnie du directeur du TLFQ, Robert Vézina. Bonjour.
Bonjour Raymond.
J'essaie d'esquisser un peu l'importance de ce dictionnaire-là, mais j'ai l'impression que vous seriez mieux placé pour mettre en exergue justement pourquoi c'est un outil qui est essentiel, qui est important.
Ben, le dictionnaire historique du français québécois, son utilité, son importance, c'est ceci, c'est qu'il répertorie et décrit plusieurs centaines de mots, de sens, d'emplois lexicaux qui caractérisent le français d'ici. Et un des objectifs principaux qui avait été poursuivi dans la production de ce dictionnaire-là, c'était justement de donner naissance, une certaine naissance lexicographique à des mots qui étaient absents des dictionnaires français. Donc, moi, j'ai connu cette époque-là. Ça fait pas si longtemps où un dictionnaire, pour un Québécois, c'était nécessairement un dictionnaire produit en France. Donc, le Larousse, le petit Larousse, le petit Robert, etc., qui sont d'excellents dictionnaires, mais qui étaient très pauvres, encore plus à l'époque de mon enfance, très, très pauvres en ce qu'on appelle en québécisme, donc des éléments lexicaux, des sens ou des mots en tant que tels, voire des expressions qui nous sont propres et qui ne sont pas en usage en France, ou du moins pas dans le français qui est décrit là-bas. Et donc, ils sont absents des dictionnaires et on avait l'impression que c'était des mots qui n'existaient pas. Donc, ça, j'ai souvent entendu cette expression-là. Ce mot-là n'existe pas, donc cesse de l'utiliser. Il n'existe pas. Il n'a pas d'existence parce que, donc, l'usage, le simple fait d'utiliser un mot, donc de le prononcer, parfois même de l'écrire, ce n'était pas suffisant pour que ce soit un vrai mot.
Non. Alors que tous les mots, vous l'avez dit, ils ne sont pas dans le dictionnaire. Enfin, on peut penser d'un côté aux termes techniques. Je pense qu'il y en a une pléthore qu'on n'y trouve tout simplement pas. Et c'est valide aussi, dans le fond, pour des mots d'apanage peut-être un peu plus régionaux, d'une certaine façon. Oui. Donc, une partie du langage québécois ou du parler québécois qui ne s'y retrouvait pas, s'y retrouve tranquillement aujourd'hui, mais encore là.
Même les termes techniques, là, il y a de nombreux dictionnaires techniques, des dictionnaires spécialisés, ou ce qu'on appelle de langues spécialisées, qui existent depuis très longtemps, là. On peut même remonter à l'encyclopédie Diderot et d'Alembert, là, qui répertorie énormément de termes techniques. Donc, ils ont une existence documentée depuis longtemps, les termes techniques, mais le français québécois, pour une large part, demeurait là, absent du dictionnaire. On retrouvait plusieurs mots et expressions québécois dans ce qu'on appelle des glossaires. Donc, il y a eu beaucoup d'ouvrages glossériques qui ont été produits à compter de la fin du 19e siècle. En fait, peut-être même le milieu du 19e siècle. Il y a même un glossaire qui a été produit là, dans les années 1740 par un missionnaire jésuite là, qui répertorie là, pour la première fois plein de mots et expressions qu'on emploie encore aujourd'hui. Comme par exemple, là, ça m'avait frappé, là, branler dans le manche au sens d'hésiter. Là, ce bon missionnaire jésuite, quand il était en Nouvelle-France, il a entendu des gens dire ça, il l'a noté dans son glossaire qui existe encore. Donc c'est un document précieux conservé à Montréal. Là. Mais bref, le DHFQ, le Dictionnaire historique du français québécois, est important parce qu'il propose une description historique d'un ensemble important là, de mots et d'emplois lexicaux québécois. Donc, il documente leur usage, il explique d'où ils viennent autant que possible, parce que des fois, certains mots échappent à notre analyse en termes d'origine. Là. Ils demeurent d'origine obscure, mais souvent, on réussit à trouver d'où ça vient. Ça nous permet de prendre conscience qu'il y a une partie non négligeable de ce qui nous caractérise provient du parler des premiers habitants francophones qui ont traversé l'Atlantique, qui sont venus s'installer ici, donc des parlers souvent qui étaient régionaux, notamment de l'ouest de la France, du nord-ouest de la France, mais pas exclusivement, mais surtout quand même. Et il y a des aspects de notre langue qui sont en fait des représentants d'états plus anciens de la langue, c'est-à-dire que à l'époque de la Nouvelle-France, c'était courant, même à Paris, et c'est resté courant ici, mais la langue évoluant toujours, ben, là-bas, de l'autre côté de l'Atlantique, c'est tombé en désuétude, mais ici, c'est demeuré vivant. Donc ça, on permet, les articles du Dictionnaire historique du français québécois permettent de comprendre ces phénomènes-là, c'est décrit, etc. Donc c'est un ouvrage fort utile et qui mérite par ailleurs, d'être revu et augmenté. Et la langue, on l'a dit, on l'a déjà répété, c'est un objet dynamique, en perpétuel mouvement, donc elle n'arrête pas d'évoluer, donc de changer.
Oui, puis en même temps, c'est dans le fond, d'une certaine façon, le dictionnaire profite donc de cette mise en disponibilité des ressources par le biais du numérique. Le dictionnaire aussi est, entre guillemets, victime du numérique parce qu'il y a un apanage, il y a plein de nouveaux mots qui apparaissent, qui arrivent, qui sont rattachés à ces nouvelles réalités-là. Et en parallèle, le dictionnaire va lui-même aussi venir contribuer à cette mise en disponibilité des sources parce qu'il va être aussi numérique, accessible.
Ah, exactement. Donc là, justement, la prochaine édition revue et augmentée du DHFQ sera une édition électronique disponible en ligne. Inutile de dire que ça va être gratuit, évidemment. Et cette édition-là va profiter des possibilités offertes par les nouvelles technologies de l'information, comme on disait encore récemment. Donc, il y aura non seulement de l'écrit, donc ça va être quand même un dictionnaire avec des articles, là, avec des définitions, des citations, mais il va y avoir du son et de l'image dans plusieurs cas. Par exemple, les archives de folklore de l'Université Laval, qui sont une ressource fondamentale à toute étude en anthropologie, en ethnologie au Québec, qui repose sur des enregistrements qui ont été effectués, surtout des enregistrements, mais il y a aussi des textes, là, des transcriptions d'entrevues qui sont conservées donc à l'Université Laval, mais des milliers d'enregistrements de personnes souvent âgées, qui ont été faites dans les années 40, 50, 60, 70, 80. Et donc, certaines personnes qui ont été enregistrées et questionnées sur différents aspects de leur vie matérielle ou de la vie sociale qu'ils ont eue, c'est des personnes qui sont nées au 19e siècle, dans certains cas.
Donc, on entend un français peut-être un peu plus ancien qui est parlé.
Absolument. Donc, c'est un français québécois, bon, parfois régional, mais on entend des prononciations qui sont moins courantes aujourd'hui. C'est fascinant pour le linguiste et c'est même très intéressant pour le non-spécialiste. Donc, ces archives-là ont été déjà dépouillées dans une large mesure par le TLFQ et on va pouvoir introduire dans plusieurs articles des extraits sonores qui vont permettre non seulement de lire des citations qui illustrent l'usage de tel ou tel mot, mais on va entendre des personnes dire concrètement là, ces citations-là. Donc, il va y avoir du son, il va y avoir de l'image. Donc, dans certains cas, on est capable d'ajouter des illustrations qui rien de tel, parfois, une image vaut mille mots. Donc, des objets concrets, donc on en donne des définitions, mais des fois, rien de tel qu'une illustration pour bien comprendre de quoi il s'agit. On va en mettre, il va y avoir des animations vidéo, hein, comme par exemple, encore une fois, on peut très bien décrire un verbe d'action, par exemple, on en fait une définition, mais c'est encore plus parlant de voir l'action en question en animation. Donc ça, il va en avoir aussi dans le dictionnaire. Et donc, le dictionnaire sera en lui-même multimédia. Et il sera, comme je le disais tout à l'heure, augmenté vis-à-vis de l'édition papier, en ce sens qu'il y aura plus de mots. D'ailleurs, j'y reviens à cet aspect-là. C'est important de retravailler ce qui avait été publié pour le mettre à jour vis-à-vis de l'usage d'aujourd'hui, parce qu'il y a énormément de mots qui ont vieilli. Ça, c'est un constat
qui
que je
sont tombés en désuétude.
Ils sont tombés en désuétude ou pas en désuétude, c'est-à-dire qu'on se rend compte que les personnes plus jeunes ne l'utilisent pas, mais les personnes par exemple, de 40 ans et plus utilisent encore. Donc, le mot est en voie de vieillissement. Là. Des fois, il est carrément vieilli. Donc, c'est surtout des personnes âgées maintenant qui le connaissent et l'utilisent. Des fois, des mots qui étaient vieillis, ils avaient déjà la marque vieillie dans le dictionnaire, mais là, rendus en 2021, ils sont carrément vieux. C'est-à-dire qu'on n'en trouve plus d'attestations récentes là, qui au-delà des années 70, par exemple. Il n'y en a plus. On n'en a pas trouvé. Donc là, il faut mettre à jour nos marques d'usage. Mais tu sais, des mots qui ont vieilli, il y en a tellement, c'est surprenant. Puis ça va avec l'évolution de la société dans certains cas, même des fois l'évolution technique. Un mot comme acétate, il était courant. Il n'y a pas de marque d'usage. Là, mais là.
Et aujourd'hui, on utilise moins, donc.
Ben, c'est ça. Donc là, il est vieilli parce qu'il y a même des gens qui n'ont aucune idée de quoi on parle si on dit acétate parce qu'ils n'en ont jamais vu. On n'utilise pratiquement plus ce type, ce genre de feuilles là, transparentes là, sur lesquelles on avait des notes puis on pouvait projeter ça sur un tableau. Ça, c'était utilisé beaucoup dans les classes.
Donc, j'imagine que c'est clair dans un contexte de technologie, d'objets d'usage. Donc au fur et à mesure que les usages évoluent, il y a des nouveaux mots pour accompagner les nouveaux usages, les anciens mots sont un peu
mis de côté. Un mot comme pousse-pousse, il n'y a pas eu qui désigne une poussette. Là. On connaissait le mot poussette. D'ailleurs, on le dit dans l'article qui décrit pousse-pousse. Aujourd'hui, c'est poussette qui a vraiment pris la place. Donc, pousse-pousse est rendu vieilli. Donc, il faut rajouter cette marque d'usage-là. Une expression comme animal. Qui n'avait pas reçu de marque à l'époque. Tu sais, un animal ça exprimait le caractère extrême de la taille ou de la puissance de quelqu'un, de quelque chose, même la taille d'un objet. Là, on pouvait dire j'ai vu un animal de camion passer dans la rue l'autre jour, on va dire qu'il était immense. Ça, c'est vieilli aujourd'hui.
Il faudrait le faire ressortir. Il me semble qu'il y a quelque chose d'imagé là-dedans qui est intéressant.
Absolument. il y a les mots nouveaux, vous en avez parlé. Là, on essaie d'entrer dans le dictionnaire, de décrire sur le plan historique des mots nouveaux. Donc, ils ont une histoire courte, bien souvent, mais donc, il faut en profiter. On est souvent capable de savoir d'où ça vient. Mieux vaut le documenter maintenant.
Oui, puis de distinguer, j'imagine, aussi à travers ça, une logique québécoise, une logique française, européenne. Donc, il y a un travail qui est fait au Québec aussi pour qualifier ces mots-là.
Le dictionnaire conserve son approche différentielle, c'est-à-dire que ce qui va se retrouver là-dedans, c'est ce qu'on considère être différent du français de référence, donc différent sur toutes sortes de rapports de ce qui est décrit dans les dictionnaires produits en France. Par exemple, des mots comme clavarder et balado-diffusion qui sont des mots très récents, mais qui se sont implantés assez rapidement dans plusieurs milieux, méritent leur place dans un dictionnaire historique parce qu'on est capable de retracer. Ils ont maintenant une histoire, on est capable de la retracer et on est capable de voir que, dans certains cas, là, ces mots-là ne se sont pas implantés de manière durable en Europe ou en France, par exemple. Donc, ça demeure des québécismes d'usage. Mais dans certains cas, des mots créés ici on réussit à s'implanter ailleurs, mais ça demeure des québécistes d'origine. Donc, on les traite quand même. Un mot comme courriel, ça a été créé au Québec, mais maintenant, courriel, on l'emploie en France. C'est même un terme officiel en France. Email, le terme qui traduit l'anglais email officiellement en France, c'est courriel. Même si on entend beaucoup mail puis email encore, là, mais courriel, on ne peut plus dire que c'est un québécisme là. Exclusif. Là.
C'est devenu un produit d'exportation.
C'est ça, c'est un produit d'exportation. c'est comme la poutine. Là. C'est comme poutine, à mesure que le mets se propage à travers la planète, bien, le mot suit. Mais à l'origine, ça a été créé au Québec, donc ça se retrouve dans le dictionnaire. Donc c'est important de faire ce travail de révision et d'enrichissement du dictionnaire. Puis en plus, ça nous permet de profiter, je l'ai mentionné tout à l'heure, des possibilités de recherche que nous offrent des outils qui sont maintenant à notre disposition, comme les bases de données de BANQ. Mais il y a d'autres choses, tu sais, comme, bon, très personnellement, moi, quand j'ai fait mon doctorat, j'ai constitué un immense corpus tiré de transcriptions d'archives qui n'avaient pas été dépouillées par le TLFQ. Parce que je m'intéressais au parler des coureurs de bois, des voyageurs, ceux qui faisaient la traite des fourrures, etc. Donc, c'était des sources plus spécialisées, particulières, mais qui, dans ces sources-là, comme des récits de voyage, des livres de contes, etc., on retrouve quand même du vocabulaire plus courant, et ça m'a permis de trouver plein d'attestations qu'on n'avait pas dans nos données au TLFQ. Donc, la mise à profit de l'ensemble de ces ressources-là nouvelles, nous permet, dans certains cas, de reculer l'histoire de plusieurs mots. Dans certains cas, on recule de plus d'un siècle la date d'attestation la plus ancienne d'un mot. Dans bien des cas, c'est plus quelques décennies. Mais et des fois, les nouvelles attestations qu'on trouve grâce aux nouvelles sources disponibles, ça nous fait revoir complètement l'histoire du mot. Ça nous fait réinterpréter son origine ou l'origine de tel ou tel sens. Ça nous permet de faire des liens qu'on n'était pas en mesure de faire au préalable parce qu'on n'avait pas assez de données sur tel ou tel aspect de l'utilisation du mot. Ça nous permet même, dans certains cas, de des mots qui avaient été décrits de manière assez complète à l'époque, un mot comme achalandé, par exemple. C'est-à-dire un lieu achalandé, c'est-à-dire, telle rue est très achalandée du samedi au dimanche, par exemple. Ce sens-là du mot achalandé, c'était très bien décrit, mais là, en regardant dans des bases de données nouvelles qu'on n'avait pas à l'époque, on se rend compte qu'il y a des sens anciens qui sont maintenant vieillis, carrément, ou des fois même disparus, qui n'avaient pas été décrits à l'époque dans le dictionnaire parce qu'on n'en avait pas d'exemple. Et là, on en trouve plein d'exemples. J'ai découvert, par exemple, que le mot achalandé, on pouvait dire encore dans les années 40 et 30, les années 1930, 40, peut-être même 50. Tel programme est très achalandé. Ce soir, au théâtre, le programme est très achalandé, c'est-à-dire qu'il est très riche, il est très garni.
Et j'ai l'impression que ça devient un peu un retour de roue, un retour de balancier pour le dictionnaire, parce que dans sa première édition, il est venu légitimer d'un côté la langue, le parler québécois, et j'ai l'impression, j'ose imaginer qu'il a agi comme accélérateur aussi pour la recherche linguistique autour de ce langage-là. Il faut faire bénéficier maintenant au dictionnaire de l'accélération ou du soutien à la recherche que lui-même a pu générer.
Absolument. Donc, depuis le début des travaux du TLFQ, puis depuis la publication de sa première édition du dictionnaire historique du français québécois, puis même avant ça, il y avait eu, en 1985, ce qu'on a appelé le volume de présentation du dictionnaire historique du français québécois. Donc, c'est un recueil de premiers articles très, très riches, là, très complets, qui avaient été faits sur un ensemble de mots. Bref, l'ensemble des interventions, des études et des outils là, produits par le TLFQ, ça a quand même eu, selon moi, là, un apport, une influence importante quant à l'évaluation qu'on fait du français d'ici. Si on recule de 50 ans, le français d'ici avait plutôt mauvaise presse, c'était en général associé à ce qu'on appelait le joual. Et c'était manifestement négatif, en tout cas dans plusieurs milieux, et c'était associé à l'ignorance, au manque d'éducation, etc. Puis je dis pas que dans toute langue, toute variété de langue, peu importe les pays, il n'y a pas cet aspect-là aussi associé à la langue. Donc, il y a toujours des éléments d'une langue qui sont l'objet d'une évaluation négative versus d'autres éléments qui ont des évaluations très positives. Ça, donc, comme toute langue normale, le français au Québec est touché par le même phénomène d'évaluation variable selon les milieux, selon les éléments, etc. Mais son culte de 50 ans, c'était souvent très négatif, là, la vision qu'on avait du français d'ici. Et là, aujourd'hui, je trouve, moi, en tout cas, en 2021, que cette image-là est beaucoup plus positive, beaucoup plus assumée, heureusement. Quand on critique quelque chose, c'est pas nécessairement pour les mêmes raisons qu'auparavant. Avant, on connaissait pas l'origine de quelque chose, on avait l'impression que c'était des créations ex nihilo, qui n'avaient pas de fondement historique à ça, ou c'était des déformations, souvent des déformations de l'anglais. Donc, c'est des mots qui n'avaient aucune légitimité. Là, on a un regard plus serein qui est permis par justement le fruit de toutes ces recherches-là faites au TLFQ, mais ailleurs. Faut quand même que je rende à César ce qui est à César. Il y a d'autres chercheurs, d'autres équipes qui ont travaillé sur différents aspects du français québécois et leurs travaux sont éminemment importants aussi, là. Donc, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, il y a une légitimité beaucoup plus grande qui est ressentie autour du français québécois, et ça doit se poursuivre. Et quand je parlais du joual tout à l'heure, ben on commence à se rendre compte que c'est un mot qui a changé de sens dans une certaine mesure. C'est souvent vu même comme argot, un sens comme de l'argot, donc le joual.
À la limite, ça s'est régionalisé, ça s'est temporalisé.
Et même, il y a des chercheurs qui parlent maintenant du nouveau joual de Montréal, et ça, c'est intéressant parce que là, mon Montréal d'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est pas le Montréal de 1950. Il y a une diversité beaucoup plus grande, une origine beaucoup plus diversifiée de la population. Et là, on commence à avoir des phénomènes sur le plan linguistique qui sont inédits. Jusqu'à récemment, c'était inédit. Là. Donc, on voit des variétés de français où il y a un apport très important de langues comme le créole haïtien, dans certains cas même de l'arabe, de l'espagnol, hein, des mots comme patné, qui veut dire ami, qui nous vient du créole haïtien,
La langue continue de se construire au contact d'autres langues aussi.
Exactement. Donc, il y en a qui vont associer à une sorte de nouveau joual. Mais bref, tout ça mérite d'être décrit. Et dans une certaine mesure, bien là, c'est à la population à le faire, c'est pas au TLFQ à légitimer quoi que ce soit. Nous, le TLFQ, on fait des travaux qui se veulent scientifiques et rigoureux. On propose le fruit de ces recherches-là à la population. Et les langagiers, donc ceux dont le métier les conduit à écrire, à réfléchir à la langue, à réviser des textes, etc., bien, ils peuvent s'appuyer sur ces outils-là pour enrichir leur réflexion et contribuer à l'évolution de notre évaluation de ce français-là, qui est une évaluation qui est en constante transformation également. Donc nous, on est un des joueurs, mais un joueur important dans ces grands travaux de réflexion-là.
Et j'imagine que l'intérêt aussi, on parlait du numérique comme support, à la fois oui pour la diffusion, mais j'imagine aussi parce que toujours le défi avec une édition papier comme la première édition avait été, ben c'est qu'à un moment donné elle devient fixée dans le temps, c'est un objet qui existe, qui a une finalité. Le numérique, la finalité est beaucoup plus large, donc ce qui fait qu'on peut constamment le mettre à jour, le bonifier, l'ajouter.
Vous avez entièrement raison. Donc un dictionnaire, une fois qu'il est électronique et en ligne, ben tant qu'il y a une équipe, tant qu'il y a du financement, on peut l'enrichir ad vitam aeternam. C'est un ouvrage à peu près sans fin, parce que on le dit encore et répété, là, la langue n'arrête pas d'évoluer. Et faire le tour, même si on voulait faire une description de l'usage actuellement là, courant au Québec, là, ça serait un immense travail parce que sur le plan historique, parce qu'il y a des milliers d'éléments là, qui constituent ce français en usage actuellement. Là.
Oui, des milliers d'éléments qui témoignent des réalités qui évoluent. On en a parlé avec le multiculturalisme, avec d'autres éléments. Je pense qu'il y a plein de portes qu'on peut ouvrir. Et pour moi, un outil comme ce dictionnaire-là, ben, c'est aussi de s'ouvrir des portes de réflexion, de penser autrement notre langue pour les non-spécialistes, autant que ça devienne une ressource documentaire incontournable pour le spécialiste.
Ah, tout à fait. Puis en plus, ben, il y a un aspect démocratique là-dedans. Donc, moi, j'aime toujours traiter un mot, l'intégrer au dictionnaire, un mot qui est de nature plus régionale. J'aime que les gens en dehors de Montréal et Québec, par exemple des grandes villes, se reconnaissent dans un ouvrage là, dictionnairique à caractère historique, là, notamment, bon, par exemple, les Québécois d'origine acadienne là, qui vivent, par exemple, aux Îles-de-la-Madeleine, dans la baie des Chaleurs, sur la Basse-Côte-Nord, etc. Donc, on essaie de traiter aussi des mots qui sont plus associés au français acadien, mais qui ont quand même une résonance au Québec, parce qu'il y a plein de Québécois d'origine acadienne qui emploient ces mots-là aussi. Donc, ça, je trouve que c'est très bien qu'un dictionnaire tel que le nôtre là, s'ouvre au plus d'usages possibles sur le plan soit régional, sur le plan social. Donc, il y a des mots très familiers qui sont traités en dictionnaire, des mots très soignés également, des mots parfois même vulgaires. On en traite quelques-uns. On n'a pas. Ça fait partie de la langue, ça fait partie de la réalité. Ça mérite d'être décrit également.
On parle de relance pour le TLFQ. C'est une relance aussi qui est appuyée par des financements.
Ah, vous avez tout à fait raison. En fait, on bénéficie d'un gros financement là, du gouvernement du Québec. On est très reconnaissant. Donc, qui permet justement la relance de différentes activités et la poursuite de différents projets dont il est question dans ce balado.
Et c'est un bel outil pour l'explorer, donc il nous est proposé. Je rappelle qu'on parlait du dictionnaire historique du français québécois et le Trésor de la langue française au Québec travaille donc sur une version bonifiée, augmentée. Donc c'est un des projets phares de cette relance du TLFQ. Robert Vézina, directeur du groupe de recherche, merci beaucoup.
Merci, Raymond.